Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis. J'ai tout réussi, mais là, maintenant, je suis en poste et ça se passe super bien. En plus, j'arrive à monter des projets, à obtenir des financements. Et donc, je suis trop contente. Et en même temps, quand j'obtiens 70 000 euros, je me dis, mais ils m'ont donné 70 000 euros. Mais je ne sais pas faire ça. Moi, je suis censée gérer de l'argent, des milliers, des centaines de milliers d'euros. J'ai jamais fait ça. Enfin, moi, je gère 500 balles sur mon compte et c'est déjà énorme. Ça me paraît démesuré par rapport à moi et par rapport à ma petite personne, en fait. C'est très difficile un peu à gérer, on va dire, au jour le jour. Il faut que je me fasse un peu violence en me disant mais t'as les compétences, tu vas y arriver. Si t'es arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. Et c'est très pesant.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Cécile. À 31 ans, elle est ingénieure de recherche en chimie du vin. Malgré sa réussite professionnelle, au quotidien, Cécile ressent un malaise. Ce malaise, c'est l'impression de ne pas être à sa place, d'être arrivée à cette position par hasard, par chance, voire même par erreur, mais certainement pas grâce à ses compétences. Ce malaise, il a un nom que vous connaissez sûrement, le syndrome de l'imposteur. Peut-être que ce que Cécile a commencé à décrire vous parle, ou fait écho à ce que vous ressentez, mais gardez pour vous. C'est même assez probable, puisqu'au moins 20% de la population serait concernée par ce syndrome, selon des questionnaires de mesure élaborés par des psychologues. Alors ces personnes comme Cécile, qui souffrent d'un syndrome de l'imposteur, ont-elles raison de douter d'elles-mêmes? Et lorsque tout prouve qu'elles sont compétentes, voire carrément brillantes, comment se défaire de ce syndrome qui peut être très lourd à porter au quotidien? Je suis Marion Botorel, bienvenue dans Émotions au travail. Arrivée à Montpellier, Cécile m'attend. Elle a décidé de témoigner de son syndrome de l'imposteur qui la poursuit depuis de nombreuses années.
Le syndrome de l'imposteur, il était, je pense, le plus fort pendant ma thèse. Ça, c'est sûr. Même, je pense, en fait, même ça continue un peu maintenant aussi, même si je travaille dessus. Donc, je dirais que j'arrive à le stabiliser. On est arrivé sur un plateau. Mais voilà, on a atteint, on va dire, ce plateau pendant ma thèse, où j'ai vraiment l'impression à ce moment-là que je suis pas à ma place, en fait, que je suis pas assez intelligente pour être là, que les gens qui font des tests, c'est des gens intelligents, en fait, et que moi, je suis pas spécialement intelligente. Enfin, je suis normale, quoi. Je suis pas bête non plus, mais c'est vrai que même en discutant avec les autres, j'ai l'impression que je suis pas aussi intelligente que les autres, quoi. Et puis même, je pense que ça vient de là aussi, hein, le syndrome de l'imposteur. On se compare beaucoup aux autres. Et moi, j'ai pas l'impression d'être meilleur que quiconque déjà. Et j'ai vraiment souvent l'impression d'être inférieure.
Son syndrome de l'imposteur dure depuis un moment déjà. Selon elle, il a même pris racine en classe de seconde. Pour l'entrée en première scientifique, son lycée opère une forme de tri. Et malgré sa hantise des dissertations, Cécile est d'abord orientée en filière littéraire, car ses résultats en sciences sont jugés trop justes. À force de protester, Cécile finit par obtenir son choix numéro 1. Mais cette idée ne va plus la quitter, elle ne méritait pas vraiment sa place en S. Finalement, elle trouve sa voie en étudiant la chimie du vin et s'épanouit là-dedans. Mais vient la fin de ses études et l'entrée sur le marché du travail.
Et donc, je commence un peu à chercher, je postule à des postes d'ingénieur, tout ça. Et puis, il y a une thèse qu'on m'envoie qui est un peu sur mathématiques des molécules voilà, que j'aime bien, sur la couleur. Enfin, voilà, c'était un sujet qui était sexy, comme on dit. Enfin, en tout cas, pour moi, il avait l'air sexy avec une directrice qui était très reconnue. Et donc, je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, je tente. Et en fait, il me rappelle. Donc, déjà, j'y crois pas au début. Je suis un peu sur le cul, puis je me prépare, je demande un peu à tout le monde, voilà, bon, bah, j'y vais, hein, je vais jusqu'à Montpellier pour passer l'entretien au fin du mois d'août. Je pars de vacances et tout pour passer cet entretien.
T'y crois pas ?
J'y crois pas du tout. J'y crois absolument pas du tout. Je suis là, en plus, devant 10 personnes. Il y a des spécialistes mondiaux dans leur domaine, et moi, je suis personne, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ultra impressionnant. Et puis, j'ai l'impression de leur raconter que je suis en train de jouer avec du sable dans mon bac à sable, quoi. Enfin, je sais pas, mais je me sens vraiment toute petite face à ces gens. Pendant l'entretien, c'est vrai que, bon, déjà, j'ai plein de questions scientifiques. Il y en a certaines, j'ai pas la réponse. Je sais pas du tout. Des trucs, vraiment improbables. Et c'est vrai qu'ils me demandent pourquoi je veux faire une thèse. Et en fait, ma réponse, vraiment naturellement, c'est je veux pas faire de thèse, en fait. Parce que c'est pour les gens très intelligents et c'est enfin à la fin faut avoir un diplôme de enfin faut soutenir et ça m'angoisse hein, parce que c'est pas du tout mon objectif. Moi ce qui me plaît c'est le sujet. Je vois ça un peu comme un CDD de 3 ans où voilà je vais travailler sur un truc qui me plaît, que je vais continuer à apprécier mon boulot et du coup c'est ça moi qui m'intéresse.
À la question « Pourquoi voulez-vous faire une thèse ?», Cécile répond donc qu'elle serait plus à l'aise à l'idée d'obtenir un CDD. Le jury, dont fait partie la future directrice de la thèse, prend note.
Et ils réagissent pas forcément. Enfin, je vois des petits sourires, mais je sais pas, j'ai pas vraiment de retour. Ils me disent « Ok, c'est noté, quoi ». Et puis après, on repart sur du scientifique. Et puis je repars, je monte dans mon train à Montpellier pour Paris. Et puis là, du coup, on capte pas. Et je vois un appel en absence et un message. Et donc, j'écoute ce message. Et en fait, c'était la fameuse directrice de thèse qui me laissait un message pour me dire que j'étais prise. Et là, j'étais dans le train et je me suis mise à pleurer. Toutes les larmes de mon corps, parce que j'y croyais vraiment pas. Enfin, c'était à ce moment-là, c'est, je sais pas, un bouleversement, quoi. Et je commence à fondre en larmes au milieu du train, donc du wagon. Il y a les gens à côté de moi qui me regardent, commencent à s'inquiéter. Et moi, j'essaye tant bien que mal, avec tous mes sanglots, de leur dire que mais non, je suis contente. Genre, j'ai été prise en thèse, vous rendez compte, je vais faire un doctorat. Et je suis super contente, parce que c'est quand même... c'était un peu un objectif. C'est pas vraiment un objectif, mais je voulais travailler dans le vin. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir travailler dans le vin et dans la chimie du vin. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Je m'engage à faire une thèse, genre, avec un manuscrit à la fin à rendre, une soutenance, où il va falloir que je parle devant un jury pendant 45 minutes sur mon sujet, qui est quand même un sujet très précis.
Cécile angoisse d'autant plus que cette directrice de thèse, avec qui elle s'apprête à travailler pendant les prochaines années au quotidien, l'admire de longue date, car elle est très réputée dans son domaine. Cécile connaît son nom, elle l'a même déjà cité dans son travail.
C'était très angoissant, parce que j'avais peur déjà de la décevoir. Je comprenais pas pourquoi elle m'avait choisi moi. Souvent, je me dis que c'est parce que je présente bien, que d'apparence, entre guillemets, je passe bien, que j'arrive à obtenir plus de choses. Et donc, je me suis souvent dit qu'elle m'avait choisi parce que je l'avais éblouie avec ça, mais que dans le fond, sur les trucs scientifiques, j'ai vraiment l'impression de... je suis pas à sa hauteur, ça c'est sûr. Voilà, donc c'était angoissant.
Et cette sensation de ne pas être à la hauteur va poursuivre Cécile les années suivantes et prendre encore plus d'ampleur.
Je vais souvent dire que je suis nulle, ou parfois je vais me dire mais je suis con. Et donc, dans le syndrome de l'imposteur que moi je ressens, le cycle qui s'installe, c'est... j'ai toutes ces idées négatives, j'ai l'impression que je suis nulle et du coup, j'avance pas. Et donc, ça me freine dans ce que je veux faire. Et donc, après, forcément, je prends encore plus de temps pour faire les choses parce que ça me demande beaucoup plus d'énergie, parce que je me traîne une sorte de boulet.
Cette angoisse prend chez Cécile des proportions qui en viennent à affecter sa santé.
Et donc voilà, c'est un peu le constat que j'ai eu pendant ma thèse. C'est là où je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose, parce que ça ne pouvait pas continuer. Ça faisait quand même pas mal d'années où j'avais des symptômes physiques par rapport au stress. J'ai des migraines, mais des migraines qui en viennent jusqu'à... qui, au bout d'un moment, à cause de la douleur, je me mets à vomir. Et puis en fait, au bout d'un moment, parce que je ne m'arrête jamais de vomir, je tombe dans les pommes d'épuisement.
Alors, est-ce que Cécile a raison de douter d'elle-même ? Est-ce qu'objectivement, elle a de quoi se faire vomir de douleur et d'angoisse parce qu'elle n'est pas à sa place ? Il y a un moment dans le parcours de Cécile qui est particulièrement éloquent à cet égard. Alors qu'elle n'a pas encore fini sa thèse, elle décide de s'inscrire au concours externe des laboratoires publics. Ces concours, c'est surtout pour Cécile un test à blanc. Elle se présente cette année-là au concours pour savoir à quoi les épreuves ressemblent et pour arriver mieux préparée pour la prochaine édition.
J'ai pas le syndrome de l'imposteur quand je vais tenter parce que en fait, je vois ça un peu comme quand je vais jouer au loto, par exemple, ou je vais tenter ma chance. C'est clairement ça. Et j'ai un peu l'impression, dans tout mon parcours, c'est comme ça que je décris, j'ai eu beaucoup de chance. Mais du coup, je ressens pas forcément le syndrome de l'imposteur. C'est un peu plus tard, au moment de la sélection, au moment de l'oral, où là, je commence à paniquer, où je vois déjà, je me suis renseignée sur tous les autres candidats parce que tout est affiché en ligne et tout. Donc, je regarde les autres candidats, je vois que je suis la seule qui est encore en thèse, qui n'a pas validé. Tous les autres, ils sont en poste depuis 2-3 ans. Moi, je me dis, mais si je vais jamais... Enfin, c'est fou, quoi. Jamais de la vie, je vais y arriver. Puis, il y avait un mec qui était vraiment... je me suis dit, c'est moi, à leur place, je recruterais ce gars-là, que je connais, en plus. Il y a ça aussi. C'est vrai que sur les candidats, je pense que j'en connaissais les trois quarts, parce que c'est un petit milieu. Et donc, je savais très bien que déjà, ils étaient tous meilleurs que moi. Mais surtout qu'il y en avait qui étaient vraiment, vraiment meilleurs que tous les autres. Et que c'est eux que j'aurais recruté à ma place, quoi.
À deux doigts d'abandonner en cours de route, mais quand même après avoir été reçue aux écrits, Cécile est remotivée dans la dernière ligne droite par une directrice de thèse. Elle la persuade d'aller au bout. Qu'est-ce qu'elle a à perdre, finalement ? Mais ça n'empêche pas Cécile de complètement paniquer dans le couloir juste avant son entretien.
Qu'est-ce que je fous ici ? Pourquoi je suis là ? Je vais me faire laminer. En plus, dans le jury, il y a mes anciens profs de Bordeaux, il y a mes anciens collègues, en partie. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je vais jamais être prise. Et en plus, juste après moi, c'est justement le mec que je considère celui qui devait avoir le poste. Et je me dis, j'ai perdu de temps pour rien. J'ai payé un aller-retour à Paris pour rien. Enfin, franchement, c'est la loose. Et je repars, et en fait, c'est affiché en ligne, les résultats des concours, parce que du coup, il y a en général une centaine de postes qui sont proposés différents. Mais donc, du coup, ils affichent tout en ligne. Et je regarde avec mon collègue, et franchement, je vois mon nom en première place. Et là, je pleure. Voilà, je suis là, je commence à pleurer, puis je recharge le truc et tout. C'est pas possible, et je demande à mon collègue de venir voir et tout. Il me dit, non, mais Cécile, c'est ouf. Et du coup, j'ai eu le poste.
Une réussite d'autant plus remarquée dans son milieu que d'habitude, pour espérer obtenir un poste dans la recherche publique, après un doctorat, il faut d'abord occuper des postes dits de post-doc, parfois pendant plusieurs années. Donc bon, il y a difficilement plus objectif qu'un concours, et on peut se dire que si Cécile l'a gagné parmi autant d'autres candidats, ce n'est pas pour rien. Elle a donc réussi en brûlant quelques étapes. Mais malgré ces preuves évidentes de ses compétences, ça ne l'empêche pas de continuer à douter. Pour bien comprendre les ressorts de ce syndrome et comprendre comment on peut agir dessus, j'ai soumis le témoignage de Cécile à Kevin Chassangre, un psychologue on ne peut plus spécialiste, on pourrait même dire expert, du syndrome de l'imposteur. Docteur en psychopathologie et professeur, il y a consacré sa thèse, dont est issu son livre « Le syndrome de l'imposteur, les clés pour changer d'état d'esprit ». Ça fait plus de 45 ans que ce syndrome a été identifié. Il apparaît pour la première fois dans un article de référence écrit par deux psychologues américaines, Pauline Klantz et Susan Himes, qui l'ont étudié parmi une cohorte d'étudiantes toutes brillantes. 40 ans après leur étude et après avoir accueilli plus d'une centaine de patients à son cabinet venus consulter pour ce syndrome, Kevin Chassangre a pu m'éclairer sur ce qui le définit, malgré la très forte hétérogénéité de ses manifestations. Comment est-ce qu'on le définit, le syndrome de l'imposteur ?
À partir de ces trois piliers qui ont été mis en évidence par Harvey en 1981, c'est d'abord l'impression de tromper son entourage, de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur. Même pour certains, quand le syndrome de l'imposteur est poussé un peu plus à l'extrême, de porter un masque social, essentiellement pour être accepté par les autres ou pour correspondre à leurs attentes, ce qui va de ce fait alimenter du coup l'impression de tromper. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui va être attribution de sa situation à des facteurs externes. C'est-à-dire finalement, notamment les succès ou la réussite, considérer en fait qu'on a réussi ou qu'on en est là à l'heure actuelle parce qu'on a eu de la chance, parce que c'était le hasard, parce qu'il y a eu une erreur, parce que les tâches ou les activités étaient trop faciles. Et on a le troisième pilier qui est la peur d'être démasqué ou de compromettre les autres du fait d'une imposture supposée. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est ces trois piliers indissociables, l'impression de tromper, l'attribution de sa situation à des causes externes et la peur d'être démasqué. Du coup, au quotidien.
Ok, très clair. Et quelles émotions est-ce que ça vient mobiliser ? Qu'est-ce que vous retrouvez le plus dans les accompagnements que vous faites ?
Alors, il y a un top 3 d'émotions qu'on retrouve dans le syndrome de l'imposteur. C'est l'anxiété ou la peur, la culpabilité et la honte. Et ces trois émotions, ce top 3, vont constituer, en fonction de leur intensité, une grande détresse. Justement, associé à ces sentiments d'imposture.
Tout un joyeux cocktail, donc, qu'on retrouve dans le témoignage de Cécile. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en dépêtrer de ces émotions qui sont quand même assez plombantes ?
Comment ça se passe et en quoi consiste étape par étape la thérapie ?
Donc, la thérapie, elle va se dérouler par étapes. Il y en a quatre. On a quatre des étapes. La première, c'est d'abord vraiment d'identifier qu'on a un syndrome de l'imposteur. On l'identifie en lisant des articles sur le sujet, en écoutant. Du coup, des émissions sur le sujet, des podcasts. On se rend compte qu'on est concerné ou on identifie un syndrome en entendant d'autres personnes qui sont concernées, fait d'en parler. On l'identifie avec un questionnaire aussi, pour être sûr. Et ensuite, on va passer à l'étape de compréhension. Comprendre un syndrome de l'imposteur, c'est comprendre justement d'où il vient, d'où il prend racine, depuis quand il s'active, qu'est-ce qui le renforce. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'atténuer aussi. Donc, l'idée, c'est de comprendre. Comprendre aussi, finalement, tous nos conditionnements. Qu'on appelle notre profil cognitif. Comment est-ce qu'on interprète en fait les situations ? Ça prend un petit peu de temps, mais l'idée c'est vraiment d'avoir toutes les bases en fait, tous les leviers pour ensuite passer à la troisième étape, qui va être l'étape d'acceptation. Alors acceptation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter qu'on a un syndrome de l'imposteur et que c'est pas un fait. En fait, c'est accepter de se tromper sur soi. Alors, ce qui est une horreur, en fait, dans le processus, pour une personne qui a un syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a cette peur de l'échec et cette hantise de se tromper. Et en fait, depuis le début, avec un syndrome de l'imposteur, on se trompe sur soi. Donc, c'est comme s'il y avait un gouffre, finalement, qui s'ouvrait. Mais pourtant, on a besoin de passer par cette étape. Un syndrome de l'imposteur, c'est pas un fait. Qu'on interprète des situations avec plein de biais cognitifs issus de tout un bagage, en fait, familial, éducationnel, enfin, de l'ordre de l'éducation, sociétale, etc. Donc, on a besoin d'accepter qu'on se trompe pour ensuite passer à la quatrième étape, effectivement, qui est d'atténuation avec le fil conducteur principal, donc qui est l'acceptation inconditionnelle de soi. C'est de considérer que notre valeur intrinsèque en tant qu'individu ne dépend absolument pas de notre performance ou de l'approbation des autres. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, alors dans plein de problématiques, mais dans le syndrome de l'imposteur encore plus, l'idée de définir sa valeur personnelle en fonction de sa productivité, en fonction du regard de l'autre. Donc une valeur de soi qui serait conditionnée par ce qu'on fait ou par le regard de l'autre. Et c'est hyper dangereux parce qu'on est, en tant qu'être humain, imparfait, et de surcroît faillible. Donc ça veut dire qu'on a des qualités et des défauts, qu'on a des possibilités d'échouer et de réussir. Donc, l'idée, c'est vraiment de décorréler ça. C'est pas parce que je réussis que je suis mieux, c'est pas parce que j'échoue donc que je suis moins bien, c'est pas parce que j'ai des compliments que je suis quelqu'un qui a plus de valeur, c'est pas parce que j'ai des critiques que je suis une personne qui en a moins aussi.
Pour parvenir à soulager son syndrome de l'imposteur, Cécile a, elle, d'abord participé à des groupes de parole.
Je vois dans le catalogue de formation du mentorat qui est proposé par une association et qui propose de faire des ateliers de parole autour de la confiance en soi, autour du syndrome de l'imposteur, justement, autour de notre place dans nos laboratoires et de se faire mentorer par une femme dans la recherche. Et en parallèle, je fais une autre formation qui est là, quelque chose sur la confiance en soi, justement, et sur le syndrome de l'imposteur aussi, mais spécialisée là-dedans avec une psychologue, où on est un petit groupe de parole à discuter et on va avoir 4 réunions. Donc, c'est vrai que de voir qu'on était autant à avoir le même sentiment, déjà, ça m'a enlevé un poids, en fait, d'une sorte de culpabilité, où je me dis que je suis pas la seule à gérer ce genre de problème et de cycles, de cercles vicieux où on n'arrive plus à avancer, mais du coup, on se sent nul. Mais en fait, du coup, on arrive encore moins à avancer parce qu'on a encore moins confiance en soi. Dans les témoignages lors des groupes de parole avec la psychologue, je me retrouve parce que on a vraiment tous ce même ressenti. Je pense que j'étais la seule à parler de chance. Où moi, vraiment, je disais j'ai eu de la chance et tout a fonctionné. On avait tous l'impression qu'on n'avait pas les compétences, qu'on n'y arriverait jamais, que en fait la thèse, ça nous paraissait être une énorme montagne et qu'on est au pied de cette montagne et qu'en fait plus on grimpe et plus on descend, plus on glisse sur les graviers et du coup on descend. Et c'était vraiment cette sensation qu'on a tous exprimée et se dire qu'on n'y arrivera jamais en fait et qu'on n'a pas les compétences et qu'on ne sait pas ce qu'on fait là et que tout le monde va voir quand on va faire une présentation et tout, ou quand on va dire quelque chose qui va pas. Et ils vont nous démasquer, ils vont voir qu'on n'a rien à faire ici, quoi. Et donc, je ressentais cette solitude. Et c'est vrai que là, de me sentir pas toute seule, entourée avec des gens qui ressentent la même chose que moi et qui sont d'accord avec ce que je dis, et où j'ai pas besoin de mettre un masque, où vraiment ils sont d'accord avec la personne derrière le masque. Et c'était ça qui était super important pour moi et qui m'a vraiment permis d'aller au-delà et d'essayer de travailler en fait justement sur ça, en me disant qu'en fait je suis pas une cause perdue, je vais y arriver, que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, je peux m'auto-saboter ou me ralentir parce que je suis trop stressée et parce que je me fais pas assez confiance. Et donc ça, c'est quelque chose qui se travaille tout seul ou accompagné avec quelqu'un. Et donc j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même pour essayer de m'épanouir en fait, de vaincre toutes ces peurs et ce syndrome de l'imposteur.
Et Cécile va mieux depuis qu'elle bénéficie du mentorat au sein de Femmes et Sciences. Cette association, qui a des pendants dans tout un tas de secteurs, permet à des femmes d'échanger sur leur carrière scientifique et technique. Autour, évidemment, de verres de vin, Cécile a pris conscience que sa mentor, elle aussi, doutait. Mais sans que ça ne remette en cause ni sa légitimité, ni ses compétences. Alors, depuis qu'elle a officiellement accédé à son poste, Cécile a décidé de rendre l'appareil. Elle est devenue elle-même mentor d'une jeune chercheuse et à travers ce qu'elle lui transmet, elle essaie de se convaincre elle-même.
Je me fais un peu violence, le fait d'être mentor, parce que forcément, c'est pas quelque chose où je me sens légitime encore. Mais j'ai l'impression, en fait, que j'avance. Donc, je suis contente. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, mais la pauvre doctorante, quoi. Elle aurait pu avoir quelqu'un qui avait tellement plus d'expérience. Et puis, je me fais violence. Je me dis qu'en vrai, je vais lui apporter d'autres choses que moi, j'ai l'expérience du concours que j'ai passé récemment. Et du coup, moi, je peux lui apporter autre chose. Le fait de mentorer quelqu'un, ça m'aide aussi à me dire que déjà, par les actes, je me montre que je suis passée de l'autre côté. Que maintenant, je suis une chercheuse, une adulte, que j'ai un vrai travail, que je commence ma vraie vie professionnelle.
Pour Kevin Chassangre, Cécile a tout bon. L'expert du syndrome de l'imposteur retrouve dans son témoignage des pistes qu'il inclut dans la méthode qu'il a lui-même mis en place. Il propose notamment à ses patients d'atténuer leur syndrome de l'imposteur au cours d'une thérapie brève, une thérapie cognitive et comportementale. Et ce que Cécile a mis en place y répond complètement.
Alors déjà, je voudrais féliciter quand même Cécile, c'est important quand même, parce que la première étape, c'est d'en parler. Donc je voudrais la féliciter quand même pour avoir initié cette démarche justement de rechercher un mentor, parce que je trouve ça d'autant plus pertinent qu'elle le fasse en plus à l'extérieur de son entreprise, parce que ça montre aussi finalement une certaine flexibilité. On n'est pas obligé forcément de parler de tout, d'être 100% authentique dans le domaine professionnel. Il y a des choses qu'on peut vouloir garder pour soi et on peut s'orienter vers un autre environnement qui va pouvoir nous aider. Donc c'est vraiment chouette.
Pour enrayer son syndrome de l'imposteur, Kevin Chassangre propose aussi de se poser trois questions simples.
C'était Schulz qui avait proposé trois petites questions justement pour essayer de questionner ces représentations justement erronées avec le syndrome de l'imposteur et le fait que quelqu'un puisse se tromper en fait sur nous. La première question qu'elle nous invite à nous poser, c'est mais est-ce que la personne en fait n'y connaît rien dans son domaine? Ce serait pour ça qu'elle se trompe sur moi. S'ils n'y connaissent rien, du coup, on passe à la deuxième question, c'est mais dans ce cas, est-ce que les gens sont idiots? Parce qu'ils s'y connaissent, mais ils nous estiment quand même. Donc, est-ce que la directrice de thèse de Cécile est idiote? J'en doute, du coup. Donc, ça veut dire que là, la réponse serait non. Et la troisième question, c'est, bon, alors dans ce cas, est-ce que les gens sont malveillants? Je dirais qu'il y a fort à parier que la directrice de thèse de Cécile n'était pas malveillante non plus. Donc, finalement, ça fait trois réponses négatives qui nous montrent que, visiblement, la personne ne se trompe pas. Et là, ça rejoint une des manifestations du syndrome, qui est le sentiment d'incongruence, en fait, où la vision de soi-même est tellement négative que si on la compare à la vision juste réaliste, en fait, d'une personne extérieure qu'elle aurait sur nous-mêmes, le décalage est énorme, ce qui fait qu'on ne peut pas croire, finalement, une différence de point de vue possible. Sauf que le problème, c'est que notre image de nous-mêmes dans un syndrome de l'imposteur est tellement dégradée, tellement négative, qu'elle n'est absolument pas reflet, en fait, de la réalité et de qui nous sommes.
Selon Kevin Chassangre, notre syndrome de l'imposteur peut être révélateur de dysfonctionnement dans notre environnement de travail.
Le syndrome de l'imposteur, si on le met en plus dans un contexte, en fait, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Bah, syndrome de l'imposteur, en fait, essayons de le voir comme quelque chose qui n'est pas non plus complètement dysfonctionnel. Ok, ça révèle qu'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain, certaines interprétations qui peuvent être erronées. Ça nous arrive à tous. Mais c'est peut-être aussi un indice qu'il y a quelque chose d'autre qui cloche quelque part. Donc, essayons de voir aussi le syndrome de l'imposteur comme un indice, en fait, en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de changer.
Pour Cécile, par exemple, ce syndrome était aussi un indicateur du nombre de femmes très restreint dans sa profession.
Puis, bah, parfois, je peux avoir des petites réflexions un peu sexistes, des petits, enfin voilà, des choses comme ça qui paraissent anodines, mais c'est vrai que tous les jours, ça aide pas non plus à avoir confiance en soi et à se dire, je suis une chef. Même moi, j'y crois pas. Donc, c'est vrai que forcément, parfois, je me sens mal à l'aise.
Et pour le psychologue qui nous accompagne dans cet épisode, il y a aussi d'autres injonctions sociétales qui participent au syndrome de l'imposteur.
Mais c'est justement tout ce qui va être de l'ordre de la surproductivité et de la surcompétitivité. Tout ce qui va être de l'ordre de la pression à la réussite et de recherche constante, finalement, de se dépasser sans questionner ni les limites, ni les ressources, tant de l'humain que d'une institution. Il y a tous ces facteurs-là qui sont la voie royale pour activer, renforcer le syndrome de l'imposteur et surtout valoriser le fait que, il faudra en avoir un syndrome de l'imposteur pour bien être intégré justement dans le monde professionnel et être sûr d'être justement hyper productif et très investi. Voilà, donc il y a une espèce d'injonction à en plus avoir ce type de sentiment, sauf que non, on n'est pas obligé d'avoir ce syndrome, on n'est pas obligé d'adhérer à ces normes productivistes qui renforcent ces sentiments. On apprend aussi à considérer l'importance du plaisir et du repos. Au niveau des recherches en psychologie positive, on sait tous les bénéfices, même si ça peut paraître évident, mais de l'impact en fait, des activités plaisantes sur notre système cognitif, sur le développement des ressources. Donc l'idée, c'est de réinstaurer ça aussi au quotidien, parce que beaucoup de personnes avec un syndrome de l'imposteur ont perdu cet intérêt et cette perception d'utilité, en fait, du plaisir, en considérant d'ailleurs que c'est inutile, les activités plaisantes, ce qui est loin d'être le cas. Donc on va dans cette direction-là.
En fait, pour Kevin Chassangre, il faut absolument écouter son syndrome de l'imposteur pour pouvoir l'analyser, prendre du recul et finalement le déjouer.
Et c'est un indice, en fait, qui nous montre qu'on a besoin effectivement d'un changement, travail, interne ou autre. Finalement, c'est un super indice, c'est un super signal d'alarme, ce syndrome de l'imposteur. Et moins on l'écoute, plus il va devenir intense, et plus là, justement, il va devenir pour nous problématique. Et c'est justement là qu'on va avoir envie de lutter contre lui. Alors qu'en fait, thérapeutiquement parlant, ce qu'on fait, on ne lutte pas. On avance avec, on danse, tiens, avec notre syndrome de l'imposteur.
Je suis Marion Botorel, vous venez d'écouter Émotion au travail. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage et la réalisation sont de Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. À très vite.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.